Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Philippe Lipschitz, qui est écrivain, comédien. Je l'ai rencontré à la fête des livres de l'affaire des Vidames et j'ai voulu en savoir plus sur tout ce qu'il faisait. En effet, il connaît fort bien le Perche et il a écrit plusieurs ouvrages. Nous allons en parler aujourd'hui pour cette promenade, l'affaire des Vidames et le maquis de Plainville. Philippe Lipschitz, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Alors, vous connaissez nos gens, puisque vous y avez travaillé. Peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots sur Nogent-le-Rotrou.
Alors, sur Nogent-le-Rotrou, j'ai des souvenirs qui sont très anciens. J'aurais la pudeur de ne pas dire de combien d'années. D'ailleurs, j'ai oublié. Il y a très, très, très longtemps, nous avions des spectacles en destination du monde scolaire et qu'on a joué, alors je me souviens, Collège Arsène Meunier, lycée Rémi Bello. Et un travail d'un peu plus long terme, régulier, avec le château Saint-Jean du temps où Françoise Lécuyer présidait à ses destinées. Voilà. Notamment un travail d'écriture et de jeu réalisé dans le cadre, vous savez, de ces opérations qui existaient à l'époque, musée au centre, musée en fête ou des choses comme celle-là. Oui. Hein, avec un long texte sur les nourrices percherodes, puisque ça avait été pendant un temps le hobby du château Saint-Jean de compiler des éléments de collection par rapport à cette activité économique importante du Perche au siècle dernier.
Oui. Alors, moi, je vous ai rencontré donc à la Ferté Vidame pour la fête des livres. Oui. Et je dois dire que j'ai été séduite par vos ouvrages. Ce sont des ouvrages assez de format facile à lire, mmh, et qui coûte 10 euros, mmh, ce qui est appréciable, et qui sont fort bien documentés. Ce sont véritablement des promenades. Promenades, mmh, donc, que nous allons faire maintenant. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien que nous commencions par l'affaire des Vidames. Entraînez-nous donc dans ce beau village de La Ferté-Vidame. Nous l'aimons parce que nous le connaissons, mais je sais que vos promenades sont tellement poétiques que j'aimerais beaucoup que vous nous entraîniez sur vos pas et sur les pas aussi de Saint-Simon.
Bien sûr. Alors, La Ferté-Vidame, on ne peut pas ne pas être séduit par ces magnifiques ruines, d'autant que j'ai une de mes filles qui a un pied-à-terre à quelques dizaines de kilomètres du côté de Verneuil-sur-Avre. Et pour rentrer chez moi, je passe le soir, quand elle est là, l'été, je passe devant ces ruines. C'est une splendeur absolue. Je ne pouvais pas ne pas écrire un ouvrage de cette collection qui est consacrée au patrimoine aurélien. Je ne pouvais pas ne pas consacrer un ouvrage à la Ferté-Vidame. Alors sur la Ferté-Vidame, je me suis dit que, évidemment, visiter les intérieurs du château de la Ferté-Vidame, c'est non seulement illusoire, mais en plus, ça peut être dangereux. Donc, que reste-t-il? Ce parc qui est absolument splendide et que l'on devrait pouvoir visiter, explorer, quelle qu'en soit la saison, puisque chaque saison permettrait d'aimer un aspect tout à fait saisonnier de ce parc.
Oui, d'ailleurs, vous avez des références de peinture, parce que quand on va voir ce château, on pense à Watteau. Oui. Et vous-même, vous avez fait une rêverie qui représente en quelque sorte un tableau de Watteau.
Absolument. Et il y a aussi Hubert Robert, évidemment, pour les ruines.
Alors, racontez-nous. Oui.
Ah, ouais. Alors, voilà. Ce qui m'avait amusé, c'était à la fois de raconter une histoire d'aujourd'hui, oui, qui est notre porte d'entrée. Nous suivons un couple qui va se former et se séparer, hélas d'actualité, pendant une année, c'est-à-dire pendant les quatre saisons. Et à cette occasion, alors qu'on les accompagne dans cette promenade dans le parc, puisque c'est un livre que j'aimerais bien qu'on puisse lire in situ.
Oui,
vous prenez le livre, vous vous promenez dans la Ferté-Vidame et vous le lisez, et vous revenez à chaque saison, évidemment, hein, en se consacrant. Et chaque saison est associée, chronologiquement, à un personnage important qu'on va croiser, dont on va croiser l'histoire. Alors, évidemment, le duc de Saint-Simon, ce serait quand même dommage de passer à côté, mais le marquis de Laborde, Louis-Philippe, et un long chapitre sur la chasse à cour, puisque c'était à la fin du XIXe siècle, enfin, le château de la Ferté-Vidame, le parc de la Ferté-Vidame, était dédié à cette chasse à cour. D'ailleurs, toute la ville se recense, il y a ces petits hôtels particuliers qui courent le long de l'avenue. Alors voilà.
Alors entraînez-nous dans une promenade.
Ah, ben écoutez, je ne sais pas, Watteau, vous parliez de Watteau.
Oui, j'aimerais beaucoup.
Tout repose sur l'idée qu'on se retrouve quelques années avant. Et quelques années avant, il y a une fête magnifique dans le parc de la Ferté-Vidame. Et à l'occasion de cette fête magnifique, on donne une représentation sur un théâtre de verdure. Et cette représentation, c'est la représentation du mariage de Figaro, puisque vous savez que la pièce ayant été interdite, il y avait un engouement dans toute l'aristocratie française pour avoir des représentations privées au minima des lectures du mariage de Figaro. Donc on est là quelques années avant, évidemment, le moment où tout va basculer. Le marquis de Laborde lui-même finira tristement ses jours, vous savez, sur ces petites planches.
Ouais, ouais.
qui ont fait florès les années 1790.
Oui,
voilà. Et donc, après cette représentation, il y a une barque sur ce grand canal, enfin, qui est absolument merveilleux, où les comédiens se délassent, et il y a un jeune homme qui a joué Chérubin. Il y a un homme, Figaro, qui va se baigner. D'un seul coup, tout le monde va aller se baigner en pleine liberté. C'est cette liberté avant-coureuse de ce vent de liberté qui va souffler sur la France avec 1789.
On aime vous suivre dans vos promenades et j'ai beaucoup aimé votre ouvrage parce que les jeunes s'y retrouvent aussi. Vous avez pensé aux enfants et aussi aux adultes. Et ça, je trouve que c'est infiniment agréable pour des parents qui vont aussi avoir le plaisir de faire goûter aux enfants le charme des vieilles demeures.
Oui, c'était l'enjeu. Jusqu'à présent, il y a trois volumes qui ont été publiés sur les vagabondages. Il y en a deux, trois même, qui sont en attente. On aura peut-être d'ailleurs l'occasion de se retrouver plus tard, parce qu'il y a un ouvrage qui est consacré à Senonche.
Ah oui.
Donc on est encore dans ce territoire. À chaque fois, j'essaye de trouver quelque chose qui serait particulier à cet ouvrage. Et en ce qui concernait la Ferté-Vidame, évidemment, les promenades, les jeux, les courses, les cache-cache, ça évoque l'enfance. Et je me suis dit que j'avais très très envie d'écrire un livre croisé entre ces textes de promenade d'adultes, enfin,
oui,
et ce texte de promenade de leurs enfants, ce qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Hein. Les textes pour les enfants reprennent les éléments avec d'autres mots, avec une autre problématique, mais on a aussi ce flot d'informations par rapport au domaine de la Ferté-Vidame dans le texte qui est consacré aux enfants.
Oui, alors... J'ai très envie de lire cette page. C'est page 100, la rêverie de promeneur, la garden party à la Ferté. Par cette belle journée d'été 1847, c'est garden party à la Ferté-Vidame. Il faut dire qu'on est très british chez les Orléans. Louis-Philippe, sait-il déjà qu'il quittera la France sous la fausse identité de M. Smith? Début août, une tradition, une petite fête commémorative. Ce n'est tout de même pas tous les jours que Louis-Philippe est proclamé roi des Français. 17 ans déjà, un roi vieillissant dont le règne entre en adolescence. Le sait-il, Louis-Philippe Ier, roi des Français, quand il approche du buffet, qu'il ne lui reste que 6 mois à être roi. Et hop, il fera la même chose que les cousins. Louis-Philippe prendra la route de l'exil, l'exil plutôt que cette menace, toujours, qui pèse sur les rois depuis le 21 janvier 1793. Un très bon moment. Alors, vous savez, vous êtes très poète. Citez-moi aussi d'autres promenades dans la Ferté qui nous font goûter à la poésie.
Alors, il y a cette promenade avec le mariage de Figaro qui tout serait comme dans un tableau de Watteau.
Oui. Hein,
et vous avez également le marquis de Laborde qui nous entraîne dans la construction insensée de ce château immense qui va lui être, allez, osons le mot, quasi confisqué par le duc de Penthièvre, puisque vous savez que le domaine de la Ferté est passé d'où le texte sur Louis-Philippe, c'est passé dans le domaine des d'Orléans, tout simplement parce que Marie-Antoinette, ayant eu un coup de béguin pour Rambouillet, a demandé à son royal époux d'en chasser le pauvre cousin, qui était quand même petit-fils du roi Soleil, même si c'était un petit-fils adultérin, hein, qui habitait à Rambouillet, qu'on a donc prié de déménager et qui, cherchant un pied-à-terre, s'est dit « Mais la Ferté-Vidame, c'est tout à côté de Dreux. La Borde vient de construire un magnifique château. Eh bien, on va l'en déloger pour une somme symbolique. » Et on lui donnera le titre de marquis, parce que n'oublions pas que le marquis de la Borde n'était pas marquis de naissance. C'est un dédommagement pour avoir quitté les lieux et laissé la place au duc de Penthièvre.
Exactement,
oui. En même temps, ne soyons pas trop apitoyés, il est allé à Méréville où il a construit un magnifique château et où c'est assez amusant, parce que puisqu'on parle de promenade, autant le château de la Ferté-Vidame est une espèce d'exemple magnifique de jardin à la française. Eh bien, à Méréville, peut-être un peu dégoûté de sa mésaventure, la Borde a demandé qu'on lui construise un magnifique jardin à l'anglaise.
Oui.
Hein, voilà, donc voilà l'histoire de cette rêverie où la Borde nous entraîne dans les méandres. Voilà, et dans les méandres de la généalogie. J'aime beaucoup les généalogies parce que je trouve qu'il y a une poésie extraordinaire là-dedans. Et alors, en ce qui concerne Penthièvre, c'est formidable.
Mais oui, exactement.
Ah oui, c'est formidable.
Alors moi, j'aimerais bien aussi une escale dans cette si belle église où justement sont passés des gens illustres.
Oui, en plus de ça, qui est une église tout à fait singulière. Pour l'Eure-et-Loire, hein, puisque elle est en style baroque, elle est style jésuite. Enfin, et alors c'est en plus amusant parce que moi j'habite à Nogent-le-Roi, donc tout à côté de Maintenon, où il y a une église également qui est de ce style-là. Mais j'ai l'impression que ce sont les très très rares. Enfin, il y en a très très peu.
Avec des tribunes.
Oui, et puis ces façades, enfin, qui sont absolument extraordinaires. Voilà. Oui.
Oui, parce que de la tribune, on pouvait voir sans être vu.
Ah ben, c'est raconté
avec ce rideau. Je trouve que ça, c'est aussi très, très étonnant, très poétique.
Oui, mais c'est le propre de ces églises-là. Et à maintenant, vous savez, c'est cette immense galerie enfin, qui a été construite pour Louis XIV, pour que Louis XIV puisse se rendre depuis le château à l'église Saint-Nicolas, enfin, qui était l'église paroissiale à cette époque, hein, et à sec. Voilà. Donc, on a construit toute une galerie pour que le roi puisse aller à la messe sans se mouiller. Donc, pareillement, avec cette tribune, hein, qui a fort peu servi, puisque Louis XIV est passé de façon extraordinairement rare au château de Maintenon. Oui.
Mais je crois qu'à l'église de la Ferté-Vidame, c'est un petit peu ça aussi. Je ne sais pas si... Il y a sa tombe, dit-on, dans l'église. Est-ce que...
Oui, je crois. Alors, c'est un souvenir un peu ancien parce que je fais un gros travail de documentation et je ne vous cacherai pas que le travail de documentation de l'ouvrage suivant chasse un peu la documentation du précédent. Mais il y a eu des histoires en plus de profanation au moment de la Révolution française.
Oui, hein,
voilà, Saint-Simon, parce que Penthièvre, je crois, c'est à Dreux, enfin, c'est à côté de la chapelle royale.
C'est ça.
Hein? Alors, on l'a rapatrié à la chapelle royale, évidemment, puisque la duchesse Douairière, la maman de Louis-Philippe, dont on vient de parler, a voulu cette grande nécropole qui serait la Saint-Denis des Orléans, quoi. Enfin, voilà.
Oui. Alors, avant de quitter la Ferté-Vidame, vous avez encore quelques instants avant que nous ne passions au maquis de Plainville. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour terminer sur la Ferté-Vidame?
Oui, la façon dont la ville a toujours été, d'une certaine façon, à l'aune du château. C'est-à-dire que ça, c'est... Alors, on le voit à Versailles, à Fontainebleau, à Compiègne, enfin, toutes les grandes villes royales et impériales sont sur ce mode. Mais comme on est à la Ferté-Vidame sur un petit bourg, c'est assez amusant de voir comment la rue centrale, enfin, a été entièrement pensée en fonction du château. la manière dont une ville, à partir du moment où elle accueille un château, elle est entièrement repensée d'un point de vue urbanistique. Et donc, ces hôtels particuliers des grands chasseurs à cour du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il y a un texte, d'ailleurs, sur dans la Ferté-Vitam, sur la chasse, enfin, avec, alors toujours pareil, un petit peu avant, comme on était un petit peu avant la chute de Louis-Philippe, on est un petit peu avant la guerre de 14, et on a retrouvé, de façon évidemment totalement fictionnelle, un film muet, et en noir et blanc, nous sommes quand même en 1914, sur une chasse qui est organisée, où il y a un très beau jeune homme qui va courir le cerf, et qui ne sait pas que dans quelques mois, ce sera lui le gibier, parce qu'il sera poursuivi par des uhlans prussiens.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale avant de vous retrouver au maquis de Plainville.
Merci.
Je suis toujours avec Philippe Lipchitz, qui est un écrivain que j'ai rencontré à la Ferté-Vidame. Et dans une première partie, nous avons compté la Ferté-Vidame, car je dois dire que Philippe Lipchitz est vraiment un conteur. Il nous emporte vers des rêveries. Et justement, il a écrit de nombreux ouvrages. Mais dans cette collection, il y a « Le maquis de Plainville », qui est tout proche de Nogent-le-Rotrou, et je suis vraiment ravie que vous soyez venu à Nogent-le-Rotrou pour en parler. Alors, pourquoi et comment vous est venue cette idée d'évoquer le maquis de Plainville ? Je rappelle aussi avant que ces petits ouvrages sont à la fois pour les parents et les enfants, et qu'ils coûtent 10 euros. Et que pour mieux comprendre, eh bien, il faut se promener dans les lieux avec ses ouvrages.
Alors le maquis de Plainville, c'était déjà la volonté de ne pas consacrer toute la collection des vagabondages à des lieux de patrimoine construit. Même si, en ce qui concerne la Ferté-Vidame, l'état de construction est un peu délabré.
Oui, on peut parler.
Donc je voulais un lieu qui soit un lieu un peu atypique, enfin. Et alors, comment est venue l'idée du maquis de Plainville ? Très compliqué à expliquer. Je connaissais le lieu depuis un certain temps. Je m'y suis promené de temps à autre, quand j'ai l'occasion de me rendre à Nogent-le-Rotrou dans sa région. Et de toute façon, parce que je ne suis pas évidemment consacré uniquement au patrimoine aurélien, mais j'écris d'autres ouvrages, notamment des ouvrages sur le monde rural, où évidemment, quand je parle de ce monde en mutation, dans son histoire, etc., difficile d'échapper à la Seconde Guerre mondiale, à l'occupation et à la libération. Et du coup, le thème du maquis de Plainville m'a semblé absolument évident, d'autant que très rapidement, le choix de forme, moi je travaille toujours sur des formes, c'est-à-dire c'est des formes qui me conduisent dans mon désir d'écriture. Tant que je n'ai pas trouvé la forme, je continue à chercher, et des fois de façon mal aimable, enfin avec mon entourage, parce que je bute sur cette forme-là. Et très rapidement, ce qui s'est imposé pour le maquis de Plainville, c'est ce que j'ai appelé une déclamation. Donc, autant la Ferté-Vidame, ça se lit lentement, doucement, promenant, autant la déclamation, elle a quelque chose de solennel, sans doute à l'image du geste très solennel que ces jeunes gens de Plainville ont fait en se regroupant au lendemain du débarquement de Normandie pour libérer enfin, la région et la ville, et en tout cas obéir d'une certaine manière aux ordres de Londres, qui était par tous les moyens, la résistance intérieure est invitée à empêcher les mouvements de troupes allemandes pour que, évidemment, ils aient le plus grand mal à rejoindre le front de Normandie, qui était déjà quand même largement meurtrier. Voilà. Donc, ce qui m'a guidé, c'était l'idée de chercher qui étaient-ils, ces jeunes gens qui ont fait le maquis de Plainville. Donc, rappelons-le, ils étaient nombreux.
Oui. Alors, j'aime bien, je vais lire la page 4, parce que vous nous mettez tout de suite dans cette situation. Et je refais la route qu'ont faite ces hommes, ces jeunes gens presque encore des enfants, qui rejoignaient le maquis de Plainville il y a 73 ans maintenant. J'aime beaucoup cette présentation. Alors peut-être aussi pourriez-vous nous situer le maquis de Plainville, parce que peut-être qu'à nos gens de retour, on ne connaît pas forcément le maquis de Plainville.
Marolles-les-Buis. Voilà. Marolles-les-Buis, c'est-à-dire, je ne sais pas exactement, pas 10 kilomètres de nos gens de retour. Maintenant, tout ça est fléché. Hein, c'est-à-dire que si vous arrivez... sur la route, vous avez de nombreux panneaux qui l'annoncent. C'est une grotte où il y a quelque chose... Alors évidemment, c'est la jeunesse de ces protagonistes, parce que la plupart étaient des jeunes gens. Ces jeunes gens...
De nos gens le retrouvent, d'ailleurs.
Bien sûr. Enfin, dans,
certains.
C'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire que on a un véritable panel de ce qu'a pu être la société française à ce moment-là. On va retrouver au maquis de Plainville alors des jeunes citadins, des jeunes urbains, qui peuvent être d'origine sociale extraordinairement diverse. Je crois qu'il y a un fils de médecin, il y a un petit lycéen. En même temps, il y a un ouvrier espagnol, puisque nos gens le retrouvent, avait été au lendemain de ce qu'on appelait la retirada, le reflux des républicains espagnols après la victoire de Franco, des femmes et des enfants espagnols ont été regroupés à Nogent-le-Rotrou. Alors bon, les hommes les ont rejoints. Il y a donc un vieux briscard républicain. Il y a de jeunes paysans.
Oui.
Il y a des jeunes qui viennent d'ailleurs, puisque avec ce fameux STO, des jeunes réfractaires au STO étachés dans les fermes, etc.
STO, rappelons.
Service du travail obligatoire. Service du travail obligatoire, c'est-à-dire qu'effectivement, pendant les années de guerre, pas de service militaire pour les jeunes gens, mais travail en Allemagne, hein, puisque les Français étaient invités le plus cordialement du monde à participer à l'effort de guerre allemand, n'est-ce pas ? Hein, voilà. Hein. Donc, tous ces jeunes gens vont se retrouver dans une atmosphère... On a quand même bien du mal à ne pas penser à une colonie de vacances, enfin, c'est-à-dire...
Oui, enfin...
c'est-à-dire que, avec cette insouciance qu'a la jeunesse, parce qu'elle risquait sa vie, hein...
Enfin, oui, bien même, sûr, bien hein, sûr.
Voilà, c'était pas rien, mais voilà. Alors, il y a des anecdotes comme ça qui m'ont beaucoup retenu, qui m'ont beaucoup amusé. Je crois que des jeunes de Plainville avaient réussi à s'emparer d'une voiture allemande, avec deux SS qui la conduisaient. Et donc, ils allaient en mission avec une voiture allemande, habillée avec l'uniforme, en espérant qu'ils ne soient pas interceptés à un moment ou à un autre par une patrouille allemande, parce qu'aucun, évidemment, ne parlait l'allemand. Ou alors, un allemand très rudimentaire qui les aurait trahis.
À cette époque-là, ce n'était pas enseigné dans les lycées. Hein. C'était anglais, espagnol, l'allemand n'était pas...
Très peu, et de toute façon, alors, à moins qu'il y ait eu parmi ces jeunes gens un lettré, un fin lettré, etc. Il y a aussi évidemment des jeunes juifs qui sont cachés dans la région et qui peut-être parlent un allemand appelé de yiddish, mais qui parlent un allemand correct. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, ces jeunes gens, quand ils ont fait ça? Cet acte héroïque qui fait que Nogent-le-Rotrou a été libéré 48 heures avant l'arrivée de l'armée Patonne.
Oui. Oui. Hein? Alors, je vais lire un poème que j'aime beaucoup. Toi qui dors et qui rêves par l'exemple à la libération de la France, comment pourrais-tu savoir qu'en ce moment même, quand tu rêves qu'une arme à la main, tu te bats pour la libération de la France, les premiers parachutistes venus des quatre coins des United States of America de jeunes gars comme toi, venus du fin fond du Texas, du fin fond de Floride, du fin fond de l'Ohio, du fin fond de l'Arizona, du fin fond de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord. De jeunes gars comme toi, venus de New York, de Détroit ou de San Francisco, et un pied sur le sol de cette France qu'ils ne connaissent pas. Vous avez beaucoup de talent, hein. C'est Merci très beaucoup. Agréable de vous lire. Et je pense que nos auditeurs vont remarquer votre goût pour la poésie et pour l'histoire.
Oui.
Alors,
oui.
Je continue avec votre récit du maquis de Plainville.
Ouais.
Vous pouvez, est-ce que vous aviez rencontré des garçons qui y avaient participé ?
Eh bien, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer soit des descendants, soit parce qu'il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les survivants se font rares. Et puis, il y a un livre d'histoire, alors, qui est sorti, il doit y avoir 2-3 ans. Vous avez peut-être eu l'occasion de recevoir les auteurs, qui sont, je crois, Nogentais, sur le maquis de Plainville, d'un point de vue, historique. Enfin, parce que moi, j'essaye de ne pas dire n'importe quoi. Par exemple, je ne reviens pas sur le fait que le 6 juin 44, les armées anglo-américaines ont débarqué sur le sol normand. Mais à partir de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la possibilité de produire une écriture qui soit une écriture de fiction, une écriture poétique en ce qui concerne le maquis de Plainville. Je disais toujours, en présentant le travail des vagabondages, j'essaye de trouver un autre chemin que celui du livre mystique ou du livre historique, voire exégétique sur le sujet. Mais une échappée comme ça dans notre imaginaire et qui complète fort bien les choses d'ailleurs, parce que finalement, si on lit un bouquin d'histoire sur le maquis de Plainville, on peut se rabattre sur le mien et d'un seul coup donner chair un peu à ces jeunes gens qui ont été la chair du maquis de Plainville.
Oui. Je dois dire que votre expression « donner chair », c'est exactement ça. Et je vais lire quelques lignes de la dernière déclaration. « Cette déclaration, c'est à vous que je l'adresse. À toi, le jeune paysan. À toi, le fils de bonne famille. À toi, Salomon ou Isaac ou Samuel, jeune juif caché au hasard de refuges incertains. À toi, jeune ouvrier. À toi, jeune lycéen. À toi, jeune amoureux, à toi, jeune maître d'école, à toi, républicain espagnol reprenant sans cesse ce combat que tu perdis à Madrid, à Barcelone, à Teruel, soldats anonymes de cette année des ombres, entrés au Panthéon avec le plus illustre d'entre vous. Ce jour d'hiver 1964, 20 ans après que vous ayez libéré votre ville. Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiorancielle.fr. Merci.
Merci à vous. Merci.